Le chant que j'aimerais interpréter ce soir, c'est un petit peu, ça retrace un petit peu ce que Jésus a dû vivre pour nous sauver, mais en fait, il a pris notre place, parce que c'est nous qui aurions dû être crucifiés. Et c'est vraiment cette grâce, quelque chose qu'on n'a pas mérité du tout, qui doit toucher notre cœur, parce que aucun de nous ne serait là ce soir. Si ça n'avait pas été pour la bonté de Dieu et le fait qu'il ait choisi que son fils meure à notre place. Donc voilà, j'aurais dû moi être crucifiée. J'étais coupable.
Dans cette ville de Limoges. Cette année encore, nous étions venus, je crois, au printemps et en automne dernier, et c'est toujours une joie de revenir voir les amis ici, au centre de la France. Nous venons de près de Saint-Gaudens, près de la frontière espagnole, donc on a fait un long voyage vers le nord aujourd'hui. Ma femme et moi, et notre équipe est là depuis mercredi soir. Le sujet donc qui nous occupe ce soir, c'est celui-ci, l'évolution. Théorie ou réalité? Dans un sens très large, nous évoluons tous de jour en jour, nous changeons. Bon, ça, c'est acquis. Personne ne conteste le fait que de jeune, on devient vieux, et des choses neuves deviennent des choses usagées, et puis se fatiguent, et puis on les jette. L'évolution, c'est une évidence même dans la vie de tous les jours. La question qui se pose, c'est bien sûr, pas celle-là, c'est celle-ci. Est-ce que notre monde est venu par un processus d'évolution conduit évidemment par le hasard, puisque il n'y aurait pas d'être suprême, il n'y aurait pas d'architecte divin. Il y a un poète romain qui en parlait, c'est Lucrèce, qui disait « Depuis les temps immémoriaux, des atomes sont en constant mouvement dans l'univers, s'entrechoquant, se liant ensemble, se séparant, et par ces chocs et ce mouvement perpétuel depuis les temps immémoriaux, ils ont fini par faire le monde que nous avons aujourd'hui. » C'était, il y croyait vraiment, c'était sa théorie, c'était son point de vue, l'évolution, comment c'est arrivé. Mais ça nous pose une autre question. D'où venons-nous? Donc, en parlant de l'évolution ou de cette autre thèse qui est la création, on va parler aussi de nous-mêmes. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés sous X, c'est-à-dire qu'on tait le nom de leurs parents. Ils grandissent et ils ne savent pas qui sont leurs vrais parents. Et généralement, à un moment donné, dans l'adolescence ou même en tant qu'adulte, ils désirent par-dessus tout connaître qui sont leurs parents, quelles sont leurs origines. Comment se fait-il qu'ils se soient séparés de leurs parents? Est-ce que leurs parents les ont abandonnés? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Leurs parents les aimaient-ils? Est-ce qu'ils ont des frères et des sœurs, des cousins? De quelle origine nationale? Imaginez un enfant qui, à l'âge de 20 ans, il dit « Mais je ne sais même pas qui je suis, d'où je viens, qui sont mes parents, de quel coin je sors, je suis avec une famille adoptive, c'est bien, mais je ne sais pas qui je suis, il y a un problème avec mon identité, je ne connais pas mes origines. » De la même manière, l'homme cherche à comprendre comment il en est arrivé là, comme il est. D'où vient ce monde dans lequel nous vivons? Et donc, pour expliquer la question de nos origines, de notre origine, il y a au fond deux idées. Soit c'est le hasard qui nous a fait venir jusqu'ici, et nous sommes là, par hasard, bon, un hasard très heureux, un hasard tout à fait extraordinaire, mais un hasard quand même. Ou alors, il y a un créateur puissant et intelligent qui nous a créés hommes tels que nous sommes. Ne pensons pas que la théorie de l'évolution a commencé avec Charles Darwin. On vient de fêter un anniversaire le concernant tout récemment, mais l'évolution a été la pensée générale de la plupart des religions orientales et de la quasi-totalité des religions et philosophies d'antiquité. Les anciens Grecs et les Romains croyaient à la théorie de l'évolution. Bon, ils croyaient aussi à la mythologie. Cette mythologie où on avait des dieux, des espèces d'êtres surhumains, mais avec toutes les faiblesses que nous avons aussi, et puis par une interaction assez hasardeuse entre ces dieux, ils ont réussi à créer ou à modeler l'homme sur la terre. Donc la mythologie fait place aussi à un certain hasard par lequel ces dieux auraient fait que l'on soit là sur la terre. Donc ça c'est une thèse qui est partout enseignée et beaucoup de gens le croient et même on est choqué même que les gens remettent en question cette hypothèse ou cette théorie de l'évolution. Il y a pourtant une autre thèse et si nous voulons être des gens ouverts, nous devons considérer toutes les thèses qui s'offrent à nous. Il faut les examiner toutes. Et il faut voir laquelle de ces thèses est la plus vraisemblable. Laquelle thèse scientifique explique le mieux les phénomènes que nous constatons tous? Comme quelqu'un l'a bien dit, pour les créationnistes, comme pour les évolutionnistes, les données sont les mêmes. Si deux hommes, l'un croit en Dieu et l'autre ne croit en rien, ils font une expérience, ils vont constater les mêmes données, ils vont faire les mêmes observations. Et partout où ils vont faire des expériences, ils arriveront avec les mêmes conclusions. La science est la même pour tous. Tout ce que nous connaissons par expérimentation et par observation, nous sommes tous absolument d'accord. Alors la seule question qui se pose, pour l'un comme pour l'autre, c'est mais comment ça se fait que ça soit comme ça et pas autrement? Et c'est là où les avis divergent. Donc parler de la théorie de l'évolution n'est pas à proprement parler scientifique. C'est plutôt un choix philosophique. Car nous ne pouvons personne ne peut prouver d'où vient le monde parce qu'on n'a pas pu observer le début du monde. Nous observons ce que fait le monde aujourd'hui, mais il nous est impossible de dire comment tout cela a commencé. On ne peut pas l'observer. On extrapole, on fait des observations. Alors c'est ainsi que l'on mesure à peu près la taille de cet univers, et il y a des univers au-delà, et on dit, si tout cela a dû commencer quelque part, puisque tout s'éloigne, tous les corps célestes s'éloignent les uns des autres. Si ces corps célestes sont si loin déjà, et on mesure la vitesse à laquelle ils s'éloignent, et on dit, bon, sur marche arrière, s'ils ont tous dû partir dans le même point, ça a dû se passer il y a environ 15,5 milliards d'années, et la première particule qui est à l'origine du Big Bang a dû avoir tant et tant d'intensité et avoir tant et tant de degrés de température. Effectivement, si le monde a été formé d'une particule subatomique dans l'espace à un moment donné et que tout est parti de là, sans doute les chiffres sont bons. Là n'est pas le problème. Le problème c'est qu'on ne peut pas prouver que tout soit parti d'une particule. Personne n'en sait rien. C'est donc une hypothèse. Il y a donc une autre hypothèse. C'est l'hypothèse d'un créateur, un être suprême, qui est donc à la fois extrêmement puissant, très sage, suprêmement intelligent, qui a créé tout l'univers selon un plan et qui maintient toutes ces choses dans l'univers. Alors, le seul livre au monde, la seule source pour évoquer cette idée d'un créateur tout puissant et intelligent, c'est la Bible. La Bible est le seul livre au monde à parler ainsi, à donner une cosmologie, une explication des origines qui soit cohérente, qu'on peut considérer comme une thèse scientifique. Qu'est-ce que donc cette Bible? Puisque toutes les mythologies, puisque la plupart des religions orientales, puisque la plupart des philosophies occidentales, puisque l'homme dans son ensemble depuis des temps immémoriaux est plutôt du côté de l'évolution, et la Bible en face est toute seule avec sa thèse créationniste, est-ce que cette Bible est fiable? Est-ce que cette Bible est digne de notre foi? Eh bien, ce livre ne ressemble à aucun autre livre de l'histoire du monde. Ce livre a commencé, la rédaction du livre a commencé 15 siècles avant Jésus-Christ, pour se terminer à peu près un siècle après la naissance de Jésus-Christ, donc un livre en voie de formation pendant 16 siècles. Ce livre a été écrit par environ 40 écrivains, sur une période de 16 siècles, évidemment, ces 40 écrivains n'ont jamais pu se réunir pour se mettre d'accord. Ils ont écrit chacun dans son coin, et ces écrits ont été amassés. Les deux tiers par le peuple d'Israël, qui a reconnu dans ses livres l'inspiration divine, et qui les a unanimement reconnus comme des écrits sacrés, et tous les autres livres qu'ils avaient produits, ils ne trouvaient pas d'inspiration divine, c'était par consensus. Le troisième tiers de cette Bible, le Nouveau Testament, a été écrit donc par les apôtres, les proches de Jésus-Christ, et ont été unanimement reconnus comme inspirés de Dieu par l'Église pendant les deux premiers siècles de son histoire. Donc, les 66 livres dans la Bible ont été reconnus par un consensus général sur des centaines d'années comme étant des livres inspirés et aucun autre livre n'a été inspiré par Dieu. Non seulement cela, mais ce livre a été conservé tout au long de l'histoire de l'homme par des milliers de manuscrits en hébreu, il y a plus de 5000, et par plus de 5000 manuscrits grecs pour le Nouveau Testament. La plupart des livres anciens, on a une copie qui date de 1300 ans après l'original. Il y a 9 ou 8 copies, il y a quelques fragments, personne ne songe à remettre en doute l'authenticité des originaux. La Bible a des milliers de fois plus de soutiens de manuscrits que n'importe quel autre livre de l'Antiquité. Ce livre, la Bible, est traduit en 1500 langues et c'est le livre le plus imprimé et diffusé sur la planète depuis l'invention de l'imprimerie. C'est un livre qui est partout. La Bible non seulement a été écrite miraculeusement, non seulement la Bible a été reconnue comme inspirée par tout ce monde à travers tous ces siècles, non seulement elle a été conservée par les milliers de manuscrits, non seulement il a été diffusé, mais ce livre traite un peu de tous les sujets. Dans la Bible, on trouve de l'histoire, de la science, de la géographie, de la sociologie, de l'éducation, on trouve des notions de la famille, du droit, de la mathématique, de l'astronomie, de la biologie, et même des questions spirituelles, bien sûr. Quelle est mon origine? Quelle est ma destinée? Quelle est la raison de ma vie sur terre? Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que la conscience, l'âme, la raison? Un livre, donc, de connaissances universelles, traitant de tous les sujets, avec une parfaite unité de pensée, et dans tous les domaines où l'on a pu examiner la fiabilité de la Bible, ce livre n'a jamais été pris en défaut. À travers les 200 dernières années, l'archéologie a fait d'énormes progrès, et chaque fois que l'on va en Terre Sainte avec sa Bible et on fouille dans tel ou tel endroit, on trouve exactement ce que la Bible disait qui était dans cet endroit-là. Il n'y a pas une seule découverte archéologique qui a pu prendre la Bible en défaut sur aucune question géographique ou historique. Donc ce livre, pour autant qu'on puisse l'examiner, s'est avéré vrai dans tous les sujets qu'il traite. Et c'est pour cela que il est vraisemblable, ce n'est pas irresponsable, mais il est tout à fait vraisemblable que la Bible nous donne le récit authentique sur les origines. Si la Bible s'avérait fausse dans nombre de ses affirmations, on pourrait penser qu'elle s'est trompée dans ce domaine aussi. Mais tel n'est pas le cas. Alors, on va faire un peu une comparaison entre les deux thèses, l'évolution donc, et la création. Et je dis encore une fois que ce sont deux thèses. Je ne peux pas vous prouver qu'il y a un Dieu. Je ne peux pas vous le prouver. Si vous preniez un avion demain, je ne pourrai pas vous certifier et vous prouver que votre avion ne s'écrasera pas. On ne pourrait pas vous donner une garantie à 100%. Si vous prenez votre voiture ce soir pour rentrer chez vous, je ne peux pas vous garantir à 100% que votre voiture vous arriverait chez vous sans accident. Je ne peux pas non plus vous garantir à 100% que vous trouverez votre appartement comme vous l'avez laissé. Il se peut que votre bâtiment ait explosé pendant que vous êtes ici ou que quelqu'un ait dérobé vos affaires. On ne peut rien prouver à 100%. On ne peut rien garantir à 100%. Mais alors comment est-ce qu'on arrive à vivre? Comment est-ce qu'on peut se lever le matin en disant « Je n'ai pas la promesse à 100% que je ne mourrai pas aujourd'hui, je vais rester au lit. » C'est qu'en fait nous marchons sur la loi de probabilité. Nous avons vécu, pour nous, certains d'entre nous, plusieurs dizaines de milliers de jours. Et jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Donc, en se levant demain matin, on est raisonnablement certain que ça se passera bien. C'est pas absolu, mais Il y en a assez pour se lever et affronter la journée avec une certaine sérénité. De la même manière, puisque dans tous les autres domaines où on peut examiner, évaluer la Bible, elle s'avère exacte, quelqu'un peut s'approcher de ce livre avec un a priori plutôt favorable. Je vais lire, mais je n'ai pas de raison particulière de douter de ce récit, comme je n'avais pas raison de douter des autres choses qui se sont avérées exactes dans cette Bible. Nous commençons donc avec Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est simple, hein? Vous dites, et d'ailleurs, la plupart des gens qui ne croient pas à la création, ils disent c'est trop simple. Je lisais un livre d'un éminent cosmologiste, alors ça c'est quelqu'un qui fait des études sur l'univers. Il dit, le principal problème avec l'argument qu'il y a en Dieu, il dit, c'est que ça arrête les conversations. Il dit, quand quelqu'un dit, mais c'est Dieu qui a tout créé, il dit, à quoi je sers, moi scientifique, pour dire, c'est Dieu a tout créé, j'ai même pas besoin de chercher puisque Dieu a tout créé. Ça coupe mon élan. Possible. Mais ce n'est pas un très bon argument. Si vous êtes devant, si vous êtes devant ce bâtiment, et un camarade vient vous dire, comment pensez-vous que ce bâtiment est venu à être là? Alors vous faites le tour du bâtiment, vous regardez les vitres, vous regardez la maçonnerie, vous regardez l'entrée, les portes, tout ça, et vous commencez à dire, mais peut-être une évolution d'aluminium, et puis le verre avec le silice est venu se mettre là-dedans, et votre ami dit, mais t'es pas bien, mais c'est un architecte qui a conçu ce bâtiment, et ce sont les maçons qui l'ont construit. Qu'allez-vous lui répondre? Mais c'est trop facile votre affaire. Si je crois que c'est un architecte et un maçon qui ont construit ce bâtiment, mais j'ai plus aucune raison de chercher comment ce bâtiment est venu. Là, tu m'as cassé mon élan. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tous les bâtiments que nous avons vus aujourd'hui dans notre vie, on n'en a vu aucun de construit, seulement des quelques-uns qu'on a vus en cours de construction, ici et là, on s'est rendu compte que si ces nouveaux bâtiments sont construits par les architectes et les maçons, on suppose que les autres bâtiments qui sont là avant, qu'on n'a pas vu se bâtir, ont été construits de la même manière. Et personne ne remet cela en question. Ce qui est différent, c'est qu'on ne construit pas les univers tous les jours. Il n'y a pas d'échafaudage quelque part sur l'univers où on peut voir le maçon et l'architecte en train de travailler. Sinon, ce serait trop. Ça, on pourrait dire, bon, c'est comment l'univers est venu. Il est là, on arrive, il est là. Seulement, tout ce qu'on n'a jamais vu sur la Terre de construit comme ce bâtiment a été fait par l'intelligence et la force des hommes. On n'a jamais vu un bâtiment, on n'a jamais rien vu de structuré, on n'a jamais même vu un jardin pousser naturellement dont un jardinier ne s'occupait pas. On n'a jamais vu dans notre vie le hasard faire quoi que ce soit de bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Rien laissé au hasard, dans mon expérience d'homme, n'est devenu plus ordonné, plus propre, plus perfectionné. Quand je laisse ma chambre au hasard, quand je laisse mon jardin au hasard, vous savez très bien à quoi ça doit ressembler au bout de quelques jours. L'univers est d'une infinie complexité et d'un ordre absolument parfait qui dépasse l'imagination. Donc, il n'est pas insensé de prétendre que peut-être il y a eu un architecte qui a créé l'univers, tout comme il y a des architectes qui créent tout ce qui nous entoure, et les jardins, et tout ce qui est structuré sur la surface de la terre. Ce mot Dieu, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est un mot pour Dieu, et c'est un sujet pluriel. Elohim, c'est pluriel, et c'est donc pas des dieux, comme s'il y en avait plusieurs, mais un dieu en plusieurs personnes, comme la Bible l'explique un peu plus tard. Donc, une pluralité, mais le mot bara, le verbe créa, c'est au singulier, c'est pas très grammatical de dire nous a fait quelque chose, nous avons fait quelque chose. Mais dans l'hébreu, vous avez Elohim, et puis vous avez un verbe au singulier, ce qui fait que cette unité plurielle agit comme une seule entité pour créer. Le mot bara veut dire créer quelque chose à partir du néant. Bara ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Donc, dans le premier verset de la Bible affirme qu'au début, il n'y avait ni matière, ni énergie. Bon, rien, ni matière, ni énergie. Et que ce Dieu, cet être suprême, cette première cause, a créé les deux, matière et énergie, en même temps. La thèse de l'évolution est obligée de dire la matière et l'énergie sont éternelles. Parce que si la matière et l'énergie ne sont pas éternelles, d'où sont-elles venues? On ne peut pas avoir quelque chose qui vient du néant absolu. Du moins, si ça peut le faire, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le concevoir, et dans l'univers que nous observons, ça n'a jamais été le cas. Il y a donc une première cause. Soit donc la matière et l'énergie sont éternelles, soit à un moment donné, la matière et l'énergie viennent à exister par une première cause que la Bible appelle Elohim ou Dieu. Ensuite, il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'avons-nous? Nous avons des matériaux créés, selon ce verset. On a donc toute la matière et toute l'énergie de l'univers qui sont créés par la parole de Dieu. On a également dans ce verset 2, donc la terre, avec son atmosphère d'air, et sa rotation. C'est en rotation et la surface est recouverte d'eau, donc la planète est recouverte d'eau et il n'est pas structuré comme elle est aujourd'hui. Le mot tohu et bohu veut dire d'une désorganisation. C'est informe et vide, cet informe n'est pas structuré, selon l'hébreu dans le verset 2. Ensuite, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bon, alors là, création d'une source lumineuse, que la lumière soit. Création d'une source lumineuse sur la terre, qui éclaire la terre. Et il dit, il y a un soir et il y a un matin. Donc, on se situe sur un point de cette terre, et de ce point-là, il y a un temps qu'on appelle jour, un temps d'éclairage, et un temps qu'on appelle nuit, un temps d'obscurité. Et vous avez des temps d'éclairage et des temps d'obscurité qui se succèdent. Qu'avons-nous donc? Nous avons un globe, nous avons une sphère qui tourne sur elle-même, la rotation de la Terre, car il y a une source lumineuse, il y a de l'éclairage de l'obscurité, de l'éclairage de l'obscurité, et chaque fois qu'il y a une rotation, Dieu appelle ça un jour. D'ailleurs, aujourd'hui encore, en 2010, chaque fois que la Terre tourne sur elle-même, on dit c'est un jour. On appelle le jour la partie lumineuse et la nuit la partie enténébrée, mais on a 24 heures par jour, on dit, ça fait la totalité de la rotation. Donc, dans la thèse créationniste, la vitesse de rotation de la Terre est mesurée à près de 24 heures. Dans la thèse évolutionniste, même il y a des gens qui lisent la Bible et disent, mais ça s'accorde avec l'évolution, mais ce n'est pas des jours de 24 heures, ce sont de très longues périodes de temps. Et s'il y a un Dieu, en tout cas, il a pris son temps, la Terre a des millions, milliards d'années, et donc un jour c'est une très longue période de temps. On comprend qu'il veuille un peu, comment dire, concilier la thèse évolutionniste avec ces longues périodes, avec la thèse créationniste, mais le texte ne le permet pas. qu'on le trouve ridicule ou génial, la Bible parle de termes de rotation de 24 heures. Pourquoi ? Parce que si la Terre tournait sur elle-même très très lentement, mettant plusieurs millions d'années pour faire un tour sur elle-même, d'abord, ça ne pourrait pas être. La force centrifuge de la Terre ne le permettrait pas. L'atmosphère ne resterait pas. Il y a une foule de choses de la cosmologie qui ne marcherait pas si la Terre ne tournait que plusieurs milliers d'années une fois sur elle-même. La rotation de la Terre, selon cette thèse biblique, est à peu près la même aujourd'hui que le premier jour. Le seul mot jour en hébreu, yom, le mot yom, jour, désigne toujours un jour de 24 heures. Et surtout quand on a premier jour, deuxième jour, troisième jour, ou 40 jours, 120 jours. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on dit il y a 3 jours, personne ne vous demande si ça remonte à 30 ans. Tout le monde sait que vous parlez de 3 jours de 24 heures. Le sens du monde n'a jamais changé. On a toujours utilisé, depuis que le monde est bon, depuis que l'homme parle, le mot jour pour désigner la même durée de temps. Maintenant, parfois, nos poètes, en ce jour de gloire, en ce temps de prospérité, bon, d'accord. Mais, de manière générale, le mot jour a ce sens de 24 heures. Le deuxième jour, dans les versets 6 à 9, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Là, on a une création d'une atmosphère, un firmament, une partie des eaux couvrant la terre ont été séparées des eaux qui sont au-dessus de la terre, c'est-à-dire l'évaporation a dû avoir lieu. Parce que vous avez des eaux au-dessus et vous avez des eaux en dessous. Un peu plus tard, dans le chapitre suivant, la Bible dit que pendant ce temps-là, il n'y avait pas de pluie, mais la terre était arrosée par une rosée. Tous les jours, il y avait une rosée. Il n'y avait pas de pluie. Et puis, dans le déluge de Noé, venu 1500 ans plus tard, d'après la chronologie biblique, il est tombé 40 jours et 40 nuits de pluie sur l'ensemble de la planète. 40 jours et 40 nuits de pluie. Les hydrologues ont mesuré combien ça devait être d'eau. Ils sont arrivés à la mesure de 13,30 m. 13,30 m d'eau amassée, qui soit tombée sur la terre sous forme de pluie pendant le déluge de Noé. Si effectivement il y avait 13,3 m d'eau en suspension au-dessus de l'atmosphère, du temps, dans le premier temps de la Bible entre Adam et Noé, ça aurait donné une pression atmosphérique augmentée sur la Terre. C'est-à-dire que pendant cette période-là, on aurait 2,2 fois plus de pression atmosphérique que nous en avons aujourd'hui. Et quand la pression atmosphérique est à ce taux, il y a beaucoup de phénomènes de vieillissement qui sont pratiquement enrayés. Ce qui explique que les chiffres que Dieu donne, que la Bible donne pour la longévité des habitants à partir d'Adam et jusqu'à Noé, des 800 ans, des 900 ans, deviennent tout à fait plausibles si on prend compte de la jeunesse génétique de la race humaine et des conditions atmosphériques de la Terre après la création et jusqu'au déluge. Le troisième jour, donc dans les versets 9 à 13, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Là, que se passait-il? Vous avez cette eau qui couvre entièrement la planète. Obligatoirement, peut-être par un jeu de tectonique des plaques, par des activités volcaniques et d'autres, il y a une partie de la croûte terrestre qui se lève et qui devient continent, et produisant un affaissement de l'autre partie, où, et l'eau cherchant son plus bas niveau va descendre, et on va voir les mers avec la terre ferme, la terre sèche. Et on le voit même aujourd'hui encore du côté du Japon, au large du Japon, il y a les fosses les plus profondes de l'océan, qui sont plus profondes que les Himalayas sont élevés par rapport à la croûte terrestre. Donc il y a ce phénomène d'élévation de certaines parties et d'enfoncement d'autres parties pour former ce que nous avons les continents et les océans. Et donc sur cette terre sèche maintenant, Dieu ordonne la création de plantes portant la semence pour se reproduire. Aujourd'hui, nous constatons que toute plante peut se reproduire par sa semence. Non seulement une plante que l'on trouve dans la nature peut se reproduire, toutes les plantes qui existent peuvent se reproduire par leur semence, que ce soit un noyau, que ce soit une semence ou autre. S'il est possible de modifier les plantes par diverses méthodes, par la greffe ou par des OGM, ces plantes ou ces semences modifiées ne peuvent pas se reproduire. Pas de la même manière en tout cas. Nous on vit au milieu de fermes et on est bien amis avec un fermier du coin et je lui ai dit alors comment ça se passe pour les plantations. Il a dit ben si on achète des semences on va dire pour un meilleur rendement. C'est vrai qu'on a un meilleur rendement. On a plus de quintaux à l'hectare que si on prend une semence non traitée. Mais je dis, alors si vous replantez le produit de cette semence-là l'année suivante, il dit, ah ça, il dit, si je reprends cette semence, le produit, et que je le replante, je n'ai que le tiers d'une récolte normale. Autrement dit, quand on commence à modifier génétiquement des semences, ça produit, c'est vrai, mais le fruit de ces semences-là ne se reproduit pas, ou du presque pas. Et donc, il faut toujours recommencer l'opération. Ce qui fait que, même quand l'homme touche et change des choses, s'il enlève la main, ça revient à ce que c'était avant. Il y a une fixité dans les espèces, animaux et plantes, que ça revient à la normale. Et donc, même, l'idée de l'espèce, justement, le darwinienne, c'était qu'il y a des espèces qui vont développer des mutations, et ces mutations seront heureuses et permettront à ces plantes de mieux s'adapter que les autres plantes autour, et ces plantes vont peu à peu remplacer des plantes qui n'ont pas cette mutation spéciale et qui ne pourront pas s'adapter aussi bien que la plante qui a subi la mutation heureuse. Ça c'est le néo-darwinisme. Maintenant on entend post-néo-darwinisme, mais c'est le néo-darwinisme, c'est-à-dire que c'est basé sur des mutations. Le problème c'est que 999 mutations sur 1000 mutations sont malheureuses, c'est une tare génétique. Et un animal ou une semence ou une plante qui a subi une mutation, c'est plutôt une maladie. Et il ne se reproduit pas, il est plutôt rayé par l'espèce elle-même, elle ne se reproduit pas et finit par disparaître et la normalité reprend le dessus. Selon la thèse créationniste, ici dans la Genèse, Dieu a créé toutes les plantes et tous les animaux, donc dans la fixité de l'espèce. Alors bien sûr, vous avez le loup et vous avez le chien, et il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Et vous avez, par exemple, 2, 3, 4, 5 chiens, de races différentes, mais par la génétique, on peut avoir des centaines de variétés de chiens, mais c'est toujours les chiens. Par contre, si on prend un cheval et un âne, ça produit un mulet, mais le mulet ne peut pas se reproduire. Et donc ainsi, chaque fois qu'on voudrait, c'est pas mauvais de vouloir faire des mulets, c'est pas le problème. Seulement, la loi de l'espèce revient et imprime sa dictature, et la Bible dit chaque chose selon son espèce. Aujourd'hui, les botanistes peuvent dire n'importe quelle plante, nommer une espèce pour cette plante. C'est fixé. Dans les fossiles que nous trouvons partout sur la planète, on trouve des milliards de fossiles de plantes, d'animaux, de toutes sortes. On peut dire avec précision de quelle espèce, de quelle variété sont ces fossiles. Ce qui veut dire qu'on pensait pendant longtemps que lorsqu'on découvrirait des fossiles dans les couches rocheuses de la Terre, on trouverait des maillons manquants dans ce processus évolutionniste. C'est tout le contraire. On trouve les espèces n'ont jamais varié. Seulement, dans les fossiles, on trouve que la plupart des espèces étaient les animaux étaient plus grands ou plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui, pour la plupart. Mais exactement le même organisme, que ce soit plante ou animal. La fixité des espèces. Le quatrième jour, du verset 14 au verset 19, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alors là, ça choque beaucoup. Ça choque beaucoup quand on connaît bien la thèse évolutionniste. Car nous sommes aujourd'hui dans les 15,5 milliards d'années pour l'âge de l'univers. C'est ce qu'on nous enseigne partout. On a globalement la communauté scientifique internationale à peu près adopté, j'allais dire qu'en parlant d'évangile, mais c'est pas bien facile de dire ça, mais comme une vérité incontournable, le fait que l'univers a commencé avec un Big Bang et ça fait d'après 15 milliards d'années. Dans ce texte biblique, et on en reste à l'interprétation normale des mots dans leur contexte, c'est pas une légende, on n'essaie pas de réinterpréter, selon la thèse de la chronologie biblique, tenez-vous bien, je sais que ça vous choque, mais le soleil, la lune, les étoiles dateraient d'environ 6000 ans. Ça paraît complètement hors de propos. Parce qu'entre 15 milliards d'années et 6000 ans, il y a une marge. 6000 ans, c'était hier, hein, à côté de 15 milliards d'années. Est-ce qu'il y a des raisons de croire que ça pourrait être possible? Je ne peux pas vous prouver que c'est vrai. Je vous pose la question, est-ce vraisemblable? Première idée, on peut mesurer la vitesse à laquelle le soleil brûle. Le soleil que se consume, tout le monde le sait. Et les scientifiques, quel que soit leur point de vue sur cette question évolution ou création, ils mesurent avec les mêmes appareils, ils ont les mêmes données auxquelles ils croient tous. Le soleil brûle donc à une certaine vitesse. Si le soleil brûle à la vitesse, a toujours brûlé à la vitesse à laquelle il brûle aujourd'hui, et ça on ne peut pas le prouver non plus, ni les uns ni les autres, mais si le taux de consommation, non, c'est pas un mot. Si le soleil se consume à la même vitesse depuis longtemps qu'il se consume aujourd'hui, le soleil serait si grand il y a 15 000 ans, juste 15 000 ans en arrière, le soleil aurait été si grand qu'il aurait profondément modifié l'atmosphère terrestre. Si le soleil se consume à la vitesse à laquelle il se consume aujourd'hui, il y a 1 million d'années, le soleil touchait la Terre. Si donc la terre tourne autour du soleil, sans avoir aucune marque que le soleil est brûlé, et parce que si le soleil avait brûlé la terre, on verrait. Si cette cosmologie de terre et de soleil et de révolution et de rotation, ce que nous avons, ce que nous constatons, si c'était comme ça depuis le début, la terre ni le soleil ne peut être très ancienne, ou alors le soleil est très ancien et la terre est arrivée de quelque part et a commencé à tourner autour par hasard aussi, ou la terre était là et puis le soleil est arrivé de quelque part et puis la terre a commencé à tourner autour. Ça c'est possible. Mais si cette situation est telle qu'elle était aujourd'hui, il y a un million d'années, la Terre n'aurait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Parlons des galaxies. Les galaxies ont conservé leur forme originelle. C'est-à-dire, des galaxies, on a des galaxies un peu en spirale. Tout le monde a vu ces magnifiques images de milliards d'étoiles qui font un peu comme cela, comme une hélice d'hélicoptère, et on voit que les galaxies tournent sur elles-mêmes. Seulement, ces galaxies sont tellement énormes que le centre tourne beaucoup plus rapidement sur lui-même que les extrémités, car ces étoiles, pour tourner, pour maintenir la forme géographique cet alignement, doivent tourner beaucoup plus rapidement pour faire le tour que les étoiles qui tournent autour d'elles-mêmes au centre. Ce qui fait que normalement, on ne devrait pas voir des galaxies comme ça, en longueur, on devrait les voir complètement défaits, parce que ça ne peut pas tourner ensemble à la même vitesse. Et pourtant, les extrémités des galaxies sont encore alignées sur le centre. Si on tient compte de la vitesse à laquelle les astres bougent aujourd'hui, et toutes ces choses-là, les galaxies pourraient ne pas être aussi anciennes que nous le disons, que les gens le disent. La Lune n'est pas du tout du même matériau que la Terre. On a pensé longtemps que la Lune est sortie de la Terre. Mais une fois que la Terre est sur la Lune, on a trouvé que ce n'était pas du tout le même matériau, et la Lune voyage trop rapidement pour être aspirée par la Terre, et la Lune voyage trop lentement pour quitter la force d'attraction de la Terre. Il y a deux forces qui agissent sur la Lune, qui la maintiennent dans cette trajectoire autour de notre planète. De plus, quand les astronautes sont allés, les cosmonautes sont allés sur la Lune, on avait construit de très longues pattes pour le vaisseau spatial parce que l'on pensait que ça s'enfoncerait dans la poussière, puisqu'on arrive à mesurer le taux à laquelle la poussière cosmique tombe sur la Lune. Et on pensait trouver peut-être plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de poussière cosmique sur la surface de la Lune, vu son grand âge. Quand les gens sont arrivés, quel n'a pas été leur étonnement de tomber dans quelques centimètres de poussière cosmique et pas dans plusieurs mètres ou dizaines de mètres de cette poussière cosmique. Et ça voudrait dire, si encore les choses restent comme elles sont, que la Lune n'amasse pas de poussière cosmique depuis très longtemps. Alors, à partir de ce quatrième jour, selon le témoignage de la Bible, les époques sont marquées. La Lune marque les mois. La révolution de la Terre autour du Soleil marque les années, la rotation de la Terre autour sur elle-même marque les jours. Un texte créationniste. Le cinquième jour, versets 20 à 25, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux reproduisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dans cette thèse créationniste, Dieu crée donc tous les animaux et ces oiseaux selon leurs espèces, ils se multiplient. Aujourd'hui, on voit les animaux, les poissons, les espèces, on les classe par famille, par espèce, et par variété. Les variétés peuvent se reproduire entre elles, presque toutes. Les espèces sont assez hermétiquement fermées entre eux. On peut toujours se reproduire à l'intérieur d'une espèce. Ce que nous constatons donc dans l'univers des animaux, des oiseaux, est précisément la manière dont la Bible dit que Dieu les a créés. Selon la thèse évolutionniste, tous les êtres vivants, nous tous, avec les virus, les bactéries et tous les autres animaux sur la Terre, nous serions issus d'une première forme de vie. Et puis par la suite, toutes les formes de vie se seraient donc diversifiées et auraient évolué par les mutations, la sélection naturelle et le hasard. Seulement, cette thèse n'explique pas l'origine des espèces, la fixité des espèces, et pourquoi on ne trouve aucune forme de vie située entre deux espèces. C'est ça la grande question. On trouve des animaux vraiment très curieux. Mais ces animaux curieux qui ont l'air d'être des reptiles, mais qui ont quelque chose qui tient d'oiseaux et qui sont aussi des mammifères, et on dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet animal? Il est vraiment curieux, il ne rentre dans aucune catégorie. Et pourtant, c'est une espèce à part, mais qui se procrée et qui, au fond, des animaux exactement comme eux. Donc, même si ça nous choque un peu la manière dont ces animaux sont faits, ils se reproduisent, en tout cas, selon leur espèce, c'est une espèce dans tous les sens du terme. Le sixième jour, c'est la création de l'homme. Donc, versets 26 et 27, Dieu vit, cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La thèse créationniste, selon ce premier chapitre de la Genèse, seul l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Dans tous les autres versets, Dieu dit que les eaux produisent des poissons, que les animaux vivants se produisent et se meuvent et se multiplient. Mais il fait en tant que créateur. Ensuite, s'agissant de l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, la thèse de la Genèse, du créationnisme, fait que l'homme est distinctivement différent de tous les animaux qui habitent sur la planète. De toutes les autres formes de vie, l'homme est distinct et complètement différent. La Bible dit que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre et qu'il souffle dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Seul l'homme reçoit un souffle de vie de la part de Dieu et il devient donc une âme. Ayant été créé par Dieu, il reçoit le mandat de dominer, d'assujettir ou de gérer la terre et tous les êtres qu'elle contient. L'homme est appelé par Dieu dans ce passage à être le manager, le gérant, responsable de la planète. La femme est formée spécialement par Dieu à partir de la côte d'Adam, on pourrait dire en clonage, une côte, celle d'une souche, et Dieu façonne l'homme, la femme, et elle possède le même souffle que lui, et Dieu établit en même temps le couple par le mariage, lui ordonnant de former une famille unique. Et il dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Séparés des deux familles d'où ils viennent, ils forment une seule chair, ils forment un nouveau foyer. L'homme est donc créé, selon la thèse créationniste, intelligent, avec intellect, émotion et volonté, une âme en souffle de vie immortel. La thèse évolutionniste spécifie que l'homme est le développement le plus récent des mammifères. Sa personnalité se serait développée pour lui permettre de s'adapter à son environnement naturel et humain. Sa religion, les religions humaines, seraient inventées par les hommes, par certains hommes, pour mieux assujettir d'autres hommes. Ça, côté cohésion de la société, c'était une nécessité pour les hommes de s'organiser et la religion pouvait servir à cette fin-là. la question qui se pose par rapport à l'homme, c'est que si nous sommes les mammifères les plus évolués, à quel moment et par quel truchement, par quel hasard, on peut dire, par quelle opération, par quel phénomène, sommes-nous arrivés à inventer le langage, à inventer une conscience, à inventer la conscience de soi-même, à inventer une conscience de l'idée du bien et du mal, à inventer toutes ces émotions qui sont plus spécialement et plus profondément humaines que les animaux. Certains ont une petite part, mais pas du tout avec la même intensité que nous. D'où est-ce que l'homme a développé ce côté de raisonnement, de réflexion? Comment l'homme a-t-il même inventé, ou est-ce comment il a développé même la pensée de l'éternité et la pensée de Dieu? Par quel truchement les mammifères vivant quelque part en primitif dans une caverne ont-ils pu lever les yeux et dire « Mais finalement, je suis peut-être plus qu'un animal, un mammifère, je suis peut-être un homme. » Et est-il arrivé avec aucune stimulation extérieure lui-même à se forger pour devenir l'être qu'il est aujourd'hui et à se poser les questions que nous nous posons aujourd'hui? Encore une fois, ma prétention n'est pas de vous prouver à 100% que la Bible est la parole de Dieu et que la thèse créationniste est l'origine de toute chose. C'est plutôt de poser la question, est-ce que la théorie de l'évolution est une théorie, une hypothèse, ou est-ce qu'une réalité, une vérité? S'agissant des origines du monde, de l'univers, de l'être humain et de ce que nous savons et ce que nous avons, personne ne peut rien prouver scientifiquement parce que pour être scientifique, dans la démarche, dans la méthode scientifique, il faut pouvoir observer, noter, constater, voir pour savoir. Ce que nous pouvons faire avec tout ce qui est biologie, avec tout ce qui est histoire, archéologie, on peut noter, observer et puis avoir des données fiables qui se renouvellent chaque fois, chaque expérience est toujours le même résultat. On sait, tiens, on voit la présence d'une loi, et puis une loi, enfin, la loi de la pesanteur, etc. Ça, tous les êtres humains qui sont dans la recherche scientifique sont entièrement d'accord là-dessus. Sur la question que la science ni la religion ne peuvent élucider par la méthode scientifique d'où venons-nous, comment ça se fait qu'on soit là, quel est notre destin, quelle est notre origine, on en est réduit à des suppositions, à des hypothèses. La question devient donc, quelle hypothèse est la plus vraisemblable? Le hasard ou un créateur intelligent et puissant qui a fait un plan et qui l'a mis en œuvre? La complexité incroyable de l'atome et de toutes ses composants, mais aussi de l'univers, depuis le virus jusqu'à la Voie lactée, des millions de lois qui gèrent l'ensemble de tous ces processus, et la merveille rien que du corps humain, pour ne pas aller plus loin que ça, militerait en faveur d'un concepteur, d'un créateur, puisque dans l'expérience humaine, et c'est la seule que nous ayons, dans l'expérience humaine, tout ce qui est vraiment complexe et bien fait est le produit de l'intelligence, d'un travail, d'ingénierie, d'inventivité, etc. On fait des projets, on fait des plans, on construit, on améliore, etc. Et bon, on est parfois fier de ce qu'on arrive à faire, nous les hommes, mais on le fait par notre intelligence. Et tout cela, que dire de cet univers dans lequel nous vivons? C'est là le propos, mais si vous avez une pensée ouverte et que vous dites, mais finalement, je ne suis marié à aucune hypothèse, j'ai le droit, moi aussi en tant qu'homme, d'examiner toutes ces choses-là et de forger ma propre conviction. Sachez toutefois que ce qui empêche la plupart des gens même d'examiner la thèse créationniste, même de lui donner le moindre examen et la moindre considération, c'est qu'on voit se profiler au bout de sa recherche, s'il y a un être intelligent, s'il y a une première cause, s'il y a un Dieu, quel que soit le nom que je lui donne, cette conscience vient de lui. Or, cette conscience que j'ai, je l'ai empreinte des milliers de fois. Et si j'ai à lui rendre des comptes, et si un jour je le rencontre, ce qui me paraîtrait vraisemblable, étant sa créature, je ne pense pas que ça va bien se passer. Alors, dans ce cas, je ne veux pas examiner cette hypothèse, je m'accommode de l'autre. Malgré son invraisemblance, car je ne veux pas penser aux résultats moraux, au côté du jugement, s'il y a un jugement, il y a quelque chose. S'il y a ce Dieu, je ne sais pas comment je le rencontrerai. Permettez-moi de vous dire en terminant que ce livre de la Bible est le seul livre au monde aussi qui dit aux hommes qu'ils sont des pécheurs et incapables de se sauver eux-mêmes. La religion, toutes les religions disent que nous sommes bien des pécheurs. Mais elles nous disent toutes que nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons adhérer à telle religion, faire tout ce qu'elle nous dit avec l'espoir qu'on sera sauvés, que Dieu nous acceptera. C'est la thèse qu'on nous veut faire connaître. La Bible dit que nous, en tant que pécheurs, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, mais que Jésus-Christ est tout disposé à le faire gratuitement par son sacrifice, par son sang. Et la seule condition pour être sauvé et pour faire sa paix avec Dieu, c'est croire que le sacrifice du Christ est suffisant, de placer sa confiance dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Et Dieu nous déclare pardonnés et justifiés parce que nos péchés ont été payés par le sacrifice de Jésus, le substitut parfait pour nous. Et donc, heureusement, cette Bible qui donne une thèse d'un créateur puissant, intelligent, ne nous laisse pas là en disant « Tant pis, j'existe, attention au jugement dernier ». Non, Dieu nous dit comment on peut se préparer pour ce jugement dernier et comment on peut savoir que lorsqu'on rencontrera ce créateur, il nous pardonnera et nous acceptera dans sa famille et nous accordera la réconciliation. Pour un vrai chrétien, celui qui croit vraiment le message de la Bible, il sait déjà que Dieu l'a pardonné et qu'il est ami avec Dieu. C'est la certitude et la joie que j'ai ce soir. Je ne suis rien, je suis un pauvre pécheur, mais Christ m'a pardonné et m'a sauvé. Il m'a donné une raison de vivre. Et je crois, je vous dis, sans embâche, je crois la Bible, je crois que c'est la parole de Dieu. Et je crois Genèse 1. Et de ce que je peux comprendre de la science, rien ne contredit ce récit. Mais chacun doit faire son choix. Chacun doit gérer son destin. Je voudrais juste prier un instant pour terminer. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité de parler de ces deux thèses qui s'affrontent dans les esprits de beaucoup de gens. Nous te prions que tu donnes à chacun d'entre nous un esprit suffisamment ouvert pour examiner les phénomènes, les évidences, et pouvoir faire un choix en toute tranquillité, en toute sérénité. Mais nous te prions que tu nous aides à être scrupuleusement honnêtes avec nous-mêmes, avec toi et avec ces recherches. Nous te prions que s'il y a quelqu'un qui veut de toi dans son âme et dans sa conscience, dans son cœur, qu'il puisse se tourner vers toi. Et nous savons que tu répondras, tu apporteras la réponse à ces questions. Merci encore pour la possibilité d'être à Limoges ce soir et veuille bénir chacun ici présent sur son trajet de retour et dans les réflexions qui peuvent être menées dans les jours qui viennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.